Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission pour la nouvelle année. Et excusez-moi un petit peu parce que je suis un petit peu malade et c'est un peu le cas aussi de Jean qu'on va accueillir tout de suite. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Oui, Cédric, bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc, comme je disais, on est un petit peu malade chacun de son côté pour différentes raisons. Donc voilà, c'est un petit. On a commencé un petit peu tard. Je rappelle de suite qu'on a changé donc de fréquence de diffusion. Donc là, pour ceci, là exceptionnellement, on l'a fait le mercredi parce que le vendredi dernier, ça n'a pas été possible de faire l'émission. Donc du coup, maintenant, ce ne sera plus tous les derniers vendredis de chaque mois, mais ce sera tous les derniers jeudis de chaque mois. Donc pensez bien à noter que l'émission, en fait, passe maintenant, au lieu des derniers vendredis, ce sera les derniers jeudis. Et il y aura donc un inversement avec l'émission Histoire du Soir, qui, elle, donc, va passer trimestrielle, hein, donc tous les 3 mois. Et elle sera diffusée, donc, au lieu du jeudi, ce sera le vendredi. Voilà. Pour ça, pour en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio TerraZen, hein, je rappelle, www.radioterrazen.net. Et vous allez donc sur l'onglet Programmation, et vous avez toutes les programmations de la radio ou alors de vous inscrire sur la newsletter. Donc Jean, je vais quand même te souhaiter une très bonne année, même si on l'a fait en dehors de l'antenne de cette année 2019. Oui. Est-ce que tu aurais, par exemple, je sais pas, un petit mot pour ce début 2019, pour commencer cette émission ?
Eh bien oui, bien sûr, merci et bonne année à tous. Même si cette année s'annonce, démarre un peu difficilement, hein, sur le plan social, on l'a vu,
oui,
sur le plan de la météo aussi. Hier, on a eu une tempête tellement forte qu'elle a cassé un arbre chez nous et nous a bouché l'entrée, on ne pouvait plus ni sortir ni rentrer. Et donc, ça, c'était assez exceptionnel. Les gens sont étonnés de voir un vent si fort. Alors bon, ça montre un peu que le climat s'est un petit peu déréglé, c'est certain.
Oui.
Voilà. Donc pour cette année, eh bien, je souhaite à tous une bonne année, même si cette année s'annonce un peu compliquée. Hein. Oui. Et certains, je prévois, bon, je ne veux pas faire de prédictions, mais je sens comme beaucoup de monde, tout le monde le ressent, bien sûr que cette année, des choses vont se passer, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais on sent bien qu'on y va, quoi. On va vers quelque chose d'un petit peu difficile.
Oui, tout à fait.
En France, notamment, dans le monde aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent, tout le temps, ça continue. Bon, voilà, nous verrons cette année sur le plan des banques. Peut-être à partir du mois de mars, j'ai l'impression que des choses peuvent se passer à ce niveau-là. Voilà, et ceci dit, il ne faut pas être catastrophique. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Quand on s'enfonce comme ça dans quelque chose de douloureux, de souffrant, il y a toujours une lumière qui va s'allumer au bout du compte. Hein. Donc, il y a de l'espoir. Et ça, c'est ce qui se passe. Ah, excusez-moi, si de temps en temps.
Il n'y a pas de souci.
La voix qui se casse de temps en temps, il faut que je l'éclaircisse.
Il n'y a pas de souci.
Oui, ce qui se passe, et c'est un petit peu quelque chose qui est connu, c'est que quand on traverse des périodes difficiles, on sait très bien que si on est patient, si on sait absorber cette période difficile, si on sait l'intégrer, si on sait l'accepter d'abord, et puis vivre avec, il y a toujours la lumière qui jaillit au bout du compte. Hein, voilà. Donc ça, c'est intéressant de jamais perdre de vue cette idée et ne pas sombrer dans des peurs incontrôlables. Il ne s'agit pas d'aller dans la peur, c'est bien au contraire, bien au contraire. Hein, voilà. Voilà ce que je veux dire. Donc il y a de l'espoir. Moi, je suis très optimiste sur l'avenir de la France et du monde. Alors, ça ne sera peut-être pas cette année, ni peut-être l'année prochaine, mais les choses, il y a beaucoup de choses qui émergent, beaucoup de points lumineux qu'on voit apparaître un peu partout. Donc, moi, je suis très optimiste. Voilà. Et je voudrais donner de l'espoir à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, Cédric.
Eh bien, merci pour ces petits mots pour ce début d'année. Effectivement, c'est vrai que ça commence depuis sur les chapeaux de roue au niveau social. Hein. Ça s'est même terminé en 2018 sur ces notes du côté social de la récupération, enfin, des Français qui deviennent de plus en plus préoccupés par leur avenir. D'où le mouvement des Gilets jaunes, hein, commencé le 17 novembre, qui continue toujours hein, d'ailleurs. Mais qui reçoit une opposition plutôt forte avec de la violence qui se fait de l'autre côté, hein, avec des blessés, des morts et des gens très gravement blessés aussi. Hein, d'ailleurs, quand même des pensées pour ces gens qui ont perdu leur vie en voulant un monde meilleur et ceux qui se sont retrouvés éborgnés, hein, on va dire le mot, hein, oui. Ou très gravement blessés. Voilà. On a une pensée pour ces gens-là aussi qui défendent non seulement pour eux, mais pour les autres. Parce que je pense qu'on voit un certain mouvement qui s'est fait, hein, les fameux foulards rouges, qu'on voit ces gens qui ont vraiment un manque d'empathie, mais comme pas possible, alors que ces gens donnent de leur temps pour justement défendre les droits pour eux, mais pour tout le monde. Ce n'est pas que pour eux, d'ailleurs, beaucoup le disent. Hein. Donc voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir une pensée pour ces gens-là qui donnent de leur temps et qui risquent, on peut dire, leur vie, parce que maintenant, manifester, ça devient même dangereux. Ça devient dangereux, au point quand même qu'Amnesty International, on lançait quand même des alertes, entre guillemets, rouges sur ce droit de manifester, et que ça a même été quand même monté jusqu'à l'ONU, alors pas le dirigeant, même si le dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine, a mis quand même dans les dents à notre cher président qu'il ferait bien de s'occuper de son problème en France des Gilets jaunes avant de s'occuper des autres pays. Et d'ailleurs, toutes les tournées qu'il fait actuellement, il se le prend justement dans la tête par rapport à ça. Mais bon, alors est-ce que ça va monter plus haut ou pas ? Ça reste à voir, notamment quand même que la Fédération de Russie sont prêts à saisir l'ONU justement pour ce problème-là. Alors est-ce que ça sera dans l'avenir ou pas ? Ça, on verra bien, mais en tout cas c'est sûr que les temps vont devenir de plus en plus compliqués parce que les augmentations vont arriver, hein, je pense que tu es au courant là, en début février, donc à la fin du mois là, donc ce vendredi, avec la loi alimentation qui va promettre entre 6 et 8% d'augmentation sur tout ce qu'on a, notamment l'alimentaire. Je pense que quelque part ça va profiter au circuit court. Parce que déjà, le mouvement des Gilets jaunes profite au circuit court. Alors, qu'est-ce que c'est que le circuit court ? C'est le circuit, c'est-à-dire que c'est du producteur au consommateur, tout simplement. Et je pense que ça risque de favoriser encore plus ce genre de choses-là. Parce que quelque part, est-ce qu'on a vraiment besoin des intermédiaires pour se nourrir ? Pour moi, non. Ces intermédiaires restent ni plus ni moins, pour ma part, des parasites. Et je pense que c'est quand même plus important de faire rémunérer celui qui produit plutôt que des gens qui font rien, quoi, qui sont juste là profiter des deux côtés, en fait. Ils profitent à la fois des producteurs et des consommateurs. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais moi, je pense que quelque part, si ça profite au circuit court, c'est peut-être pas plus mal.
J'ai écrit... je vais juste revenir sur un article que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, là. Alors, c'est vrai que les Gilets jaunes m'ont inspiré une réflexion là-dessus, sur ce qui se passe, quoi, hein, c'est vrai. Et j'en arrive justement au circuit court dont tu parles, et c'est intéressant, bien sûr, et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à privilégier justement ces circuits courts et Alors, je reviens sur l'article et on verra la conclusion. Justement, j'arrive à la conclusion. Ce Léger Légende, moi, ce qui m'a inspiré, c'est la violence qui s'installe et qui est de plus en plus forte, qui est absolument, qui est incroyable, qui était impensable il y a quelques mois d'arriver à une violence comme ça. Puis tous ces blessés, ces centaines de blessés, c'est vrai que c'est vraiment incroyable de voir tant de blessés, tant de violence, quoi. Et moi, le conseil que je donnais aux Gilets jaunes, hein, j'ai écrit quelques fois, c'est d'arrêter la violence, parce que pour moi, la violence, ça n'amène nulle part. Et j'entends parler de révolution. On compare un peu le mouvement des Gilets jaunes à mai 68. Il y en a qui ont parlé de 1789. Et donc, ça a l'air d'être une insurrection. Ça n'a pas pris encore vraiment, mais enfin bon, ça a l'air de ressembler à une révolution. Alors, c'est vrai, moi, l'histoire, c'est ma passion depuis tout le temps. Donc, j'ai fait un petit tour, comme ça, un tour d'horizon rapide, hein, sur les révolutions pour montrer qu'en fait, toutes les révolutions n'ont rien amené. Alors, bien sûr, les gens vont me dire, oui, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais toutes les révolutions, par exemple, 89, c'est les droits de l'homme, on a aboli la monarchie, etc. Et les gens sont contents avec ça, avec ces résultats. En définitive, les révolutions n'ont jamais rien apporté. Parce que, qu'est-ce qu'on voit après, quand la révolution se termine? Eh bien, les pauvres, de toute façon, ce sont eux qui ont alimenté les morts. Hein. Les morts, c'est toujours chez les pauvres qu'on va les prendre. Hein. Ce sont eux qu'on voit dans la rue, ce sont eux qui sont en colère et qui réclament du pain, mais ce sont eux qu'on va tuer. Et quand la révolution se termine, qu'est-ce qui se passe? Les pauvres sont encore plus pauvres qu'avant. Hein. Et les riches, ben, ils sont un peu plus riches aussi. Et leur pouvoir s'est même accru. Et on peut prendre comme ça toutes les révolutions. Celle de 89, c'est ce qui s'est passé, parce qu'en fait, 89, regarde ce qui se passe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais si on prend un peu de recul, on a le recul maintenant sur les révolutions. En 89, il y a la République. Puis ensuite, il y a le Directoire, bon, l'Empire. L'Empire se termine, qu'est-ce qu'on a? Une monarchie. Le frère de celui à qui on a coupé la tête. Une deuxième monarchie, et à chaque fois il y a une révolution en 1830. Après 1848, ben, c'est le cousin qui était de celui qu'on a tué qui part. Il y a une république en 48, 51, hop, il y a l'Empire. Ensuite, il y a une autre révolution, c'est celle de 70. Et puis après, il y a la République. Et ainsi de suite, et après, on arrive à mai 68. Mais qu'est-ce qui change? Si on regarde bien le fond des choses, qu'est-ce qui a changé? Les pauvres sont toujours aussi pauvres. Et les riches sont toujours aussi riches, et ils sont même plus riches, et leur pouvoir s'est agrandi, s'est accru. Bon, c'est ça que je vois. Les révolutions n'ont rien apporté. J'en parlais à quelqu'un, enfin, j'ai eu plein de commentaires sur cet article. Et des gens m'ont dit, mais oui, mais alors en 1945, il y a eu le droit des femmes, c'est important. Mais oui, c'est important. Il y a eu des choses, il y a eu des choses qu'on a eues comme ça, bien sûr. Mais sur le fond du problème, ça ressemble à un sucre d'orge qu'on donne à un enfant, quoi, pour le faire taire un petit peu. Hein. Et ce qu'on a un peu de recul, c'est que les révolutions, alors ensuite, en fait, elles sont toutes manipulées, elles sont dirigées, et en aucun cas, elles sont spontanées. On croit qu'elles sont spontanées. On croit que c'est le peuple qui va dans la rue et puis. Tout ça s'était préparé à l'avance, même de 89. Alors, on parle beaucoup de mai 68, c'était une révolution des étudiants, tout ça. Alors, mai 68, si on regarde le fond du problème, mais il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais ça, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, ce n'est pas un problème. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont droit, bien sûr. Mais alors, je leur demande d'aller vérifier, hein, d'aller bien, bien vérifier. Moi, je l'ai fait. Je suis allé au fond du problème, j'ai regardé, j'ai étudié, j'en ai lu des choses et vu des vidéos pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et en mai 68, et c'est ça maintenant, le problème qu'on a maintenant, il part de mai 68. Pourquoi? Mai 68, qu'est-ce que c'est? En fait, si on regarde la politique, les événements qui se passent un petit peu avant 68, on se rend compte que De Gaulle n'est pas d'accord avec l'Europe qu'on veut lui imposer. Lui, il veut une autre Europe. Et il est en train de la faire. Il a un projet sur une Europe complètement différente, mais dans laquelle la France garde sa souveraineté. Et donc, il est un obstacle trop important pour les Américains. Et la CIA crée mai 68 pour foutre dehors De Gaulle. Et c'est ce qu'ils ont fait. De Gaulle est parti. D'ailleurs, mai 68 a été fait pour renverser De Gaulle. Faut pas croire qu'il y a autre chose. Alors bien sûr, on va dire, ouais, c'est la liberté, c'est un vent de liberté qui souffle. C'est vrai, la liberté sexuelle, la liberté, enfin bref, à tous les niveaux, etc. Ok, il y a un petit peu de vrai, mais on s'est servi de ça pour aller vers un autre objectif, mettre dehors De Gaulle, parce qu'il était trop gênant. Et qui on met à la place? Eh bien, Rothschild, un représentant de Rothschild. C'est-à-dire sous le visage d'un gentil, hein, d'un Pompidou. Et Pompidou, ça a été le premier fossoyeur de la France.
Oui, avec la loi de 1973 de la dette permanente.
Et bien entendu. C'est-à-dire que mai 68 a été fait pour arriver à ce résultat-là du 5 février 73, pour que cette loi passe qui va interdire à la France d'emprunter à la Banque de France sans intérêt, pour être obligé d'emprunter au marché financier avec intérêt. Et si on fait un calcul, alors c'est un peu approximatif, les intérêts depuis cette date jusqu'à maintenant correspondent à peu près à notre dette. Donc ça veut dire que la dette de maintenant, elle est complètement fictive. Et c'est cette dette qui fait que les gens sont sortis dans les rues. C'est ce qui fait que maintenant, il y a des gilets jaunes dans les rues et des gens qui crèvent de faim, des retraites qui. Il y a cette politique d'austérité qui a été mise en place pour renflouer la dette qui est née le 5 janvier 1973.
Tout à fait.
Si on a vu cette réalité-là, on peut parler pendant des jours et des jours et on n'aboutit à rien du tout, hein. C'est ça, pour moi, c'est ça, hein, voilà.
D'ailleurs, je rappelle juste que en fait, cette loi, c'est qu'elle impose les gouvernements à faire des emprunts à des banques privées, donc sous contrôle des banques
Oui, au
Rothschild.
marché, sur le marché, bon marché financier,
C'est
oui,
ça,
bien sûr.
plutôt que la Banque de France. Voilà.
Mais bien entendu, et la Banque de France, jusque-là, la France empruntait à la Banque de France qui fabriquait les billets. Alors il y avait de l'inflation, c'est vrai. Mais il vaut mieux un peu d'inflation qu'une dette comme on a maintenant et qui amène une politique d'austérité monstrueuse, démentielle, inhumaine. Hein? Bien sûr, c'est ça qui s'est passé. Et la France a servi d'essai. Parce que quand on a vu que la France a marché bien, c'est la loi Giscard Pompidou, hein? On a fait l'essai en France et ensuite c'est passé à Maastricht et à Lisbonne, au marché européen. Et dans tous les pays, on en profitait ensuite. L'Italie, l'Espagne, etc. Tous les pays en ont profité. Sont sous le coup de cette même loi. La France a servi d'essai. Et ça, c'est une espèce de grand coup de bluff dans lequel tous les Européens sont tombés. Et on parle de dette comme si c'était quelque chose d'une fatalité. Mais c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Mais si les gens ne comprennent pas ça, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a que ça. Et les gilets jaunes, eh bien, ils sont là pour dire supprimons cette dette, en gros. Hein. Mais c'est ça le problème. Mais cette dette, elle a été créée artificiellement.
Oui, c'est une dette fictive. Ouais.
Et voilà.
Qui
Alors.
je rappelle, enfin, excuse-moi de t'occuper, qui je rappelle, ne sera impossible, jamais possible à rembourser. Voilà, c'est le but de ce système. Il faut
Bien.
savoir qu'il y a quand même plusieurs années, Vladimir Poutine a dégagé toutes les banques Rothschild de la Russie, a dégagé même toutes les fondations de quoi que ce soit, tout ce qui était attrait à ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la cabale. Il a tout dégagé, il a fait le remboursement, machin, nana, et puis terminé. C'est pour ça qu'en fait, la Russie devient l'ennemi en fait à abattre parce que le SEC, lui, n'est plus du tout sous contrainte
Oui.
de cette banque mondiale.
Ouais. D'ailleurs, tu parles de Rothschild. C'est amusant de voir que la France est tombée dans ce piège-là par la loi qu'on a appelée loi Pompidou, Giscard ou bien loi Rothschild, et donc par un représentant de la banque Rothschild. Et maintenant, on a un deuxième représentant de la banque Rothschild, toujours sous les traits d'un gentil, d'un beau, d'un mignon, là. Hein. Mmh. On a un deuxième représentant, et à mon avis, il vient terminer le travail qu'avait commencé Pompidou. Il vient terminer. Et à mon avis, il a pratiquement terminé son boulot. Voilà. Lui, il est venu pour détruire ce qui restait à détruire. Il n'est pas venu pour autre chose que détruire la France. Il est venu pour ça. Et il est en train de terminer son boulot. Terminé. Et donc, ses patrons sont très contents de lui. En plus, il est doué. Il est doué pour la communication. Il est doué pour endormir les gens. Il est très doué. Il a un talent fou. Il est venu pour ça. Et il est possible, je ne sais pas, alors par contre, mais je me demandais s'il n'était pas maintenant sur le point de démissionner et d'attendre son poste européen pour la place de Juncker. Moi, c'était mon idée que j'avais. Hein. Je ne sais pas si ça va se vérifier, mais. Et puis, il sera remplacé par Marine Le Pen ou Marion Le Pen, voilà. Qui sont dans le système aussi, bien sûr. Hein. Ils sont pas. Ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Tu sais, l'extrême droite, la socialiste, la droite, tout ça, ça a été créé par ceux qui oui. dirigent vraiment pour amuser le peuple. Hein. Voilà, mmh. alors,
les partis, ça n'existe pas.
Mais non, mais ça n'existe pas, tout ça. C'est fictif, tout ça. Mais ça amuse le peuple hein, de dire « moi, je suis d'extrême droite, ah, tu es un salaud parce que tu es un facho. » Et les gens s'insultent. Et le but est de diviser les gens dans des partis politiques qui sont en fait de connivence. Hein
oui.
Et les syndicats avec. Et les syndicats avec. Même si on a l'impression qu'ils sont sincères. Non, non, mais les syndicats avec. Hein
mais...
ils sont tous de côté.
Pardon. Il faut quand même noter que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même contaminé une bonne partie de l'Europe et même une autre partie du monde. Parce qu'on commence à en voir un petit peu partout qui commence à fleurir. Vrai. Et même au Québec. Hein. Au Québec, ça commence déjà aussi à s'intensifier de plus en plus.
Oui, 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 oui. Mais bien sûr, parce que. Oui, oui. C'est... Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à saisir complètement. Parce que pour moi, les Gilets jaunes ont bien été créés, par la rue, mais ont été créés de toutes pièces par ceux qui nous dirigent pour créer justement quelque chose qui va vers la guerre civile. Pour imposer des lois de plus en plus dures pour arriver à la loi martiale. Moi, c'était mon idée, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça. Puisqu'on ne parle pas maintenant d'une loi anti-casseurs, là.
Si.
Est-ce que ça a été voté aujourd'hui, hier, je ne sais
ça
plus.
A été,
là.
Ça a été rejeté.
Ça a été rejeté, bon. Voilà. Ça va revenir.
Hein, oui, ça va revenir, ils vont faire des modifications. Mais...
Voilà. Il faut qu'il y ait de plus en plus de violence pour justifier ce genre de loi.
Oui.
Mais... Et s'il y a encore un peu plus de violence, eh bien, on instaurera la loi martiale qui fera que, ben, on a ouvertement, on ne pourra plus dire qu'on est dans une démocratie, quoi. Hein. Mais c'est ça le but. C'est ça le but. Faut pas chercher ailleurs. C'est pourquoi, si les Gilets jaunes pouvaient nous entendre, moi je leur dirais arrêtez de faire ce que vous faites. Hein. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sont beaucoup plus efficaces. Et dans mon petit article que j'ai écrit il y a quelque temps, je préconisais premièrement une proposition, une suggestion comme ça. Il y en a d'autres, mais pour moi, une suggestion qui me tient à cœur, c'est de dire, essayons de ne plus mettre les pieds dans des grandes surfaces. Voilà. Essayons de ne plus mettre les pieds dans les grandes surfaces. Si d'un coup, il y avait un nombre de gens suffisant qui d'un coup n'allaient plus dans les grandes surfaces, eh bien, elles se casseraient la figure, hein. Elles iraient de plus en plus mal, elles fermeraient leurs portes. Et qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on va favoriser tout de suite les circuits courts, ils vont se refaire. Les circuits courts vont se reformer. Puis il y aura des petites structures qui vont se créer ici et là. Et on va travailler avec les gens locaux, des producteurs locaux. Vous savez, en France, on est un pays extraordinaire où, où qu'on soit à 10 km à la ronde, on a à manger, hein, on a de tout. On a de tout. On n'a pas besoin d'aller chercher des ananas qui viennent de je ne sais pas d'où, des tomates qui viennent d'à 10 000 km. On n'a pas besoin de ça. On peut se passer de ce qui vient de très loin. Et en faisant ça, on va améliorer la pollution, puisqu'on va arrêter de faire ces transports en bateau qui coûtent cher et qui polluent beaucoup, puisqu'il y en a qui... Voilà. Donc, pour moi, si on arrivait à plus mettre les pieds dans les grandes surfaces, alors c'est sûr qu'on ne peut pas du jour au lendemain ne plus mettre les pieds, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve plus du tout ailleurs que dans les grandes surfaces. Par exemple, là, il faut que j'achète des lames de rasoir, je ne sais pas où les trouver, sinon dans une grande surface. Bien entendu. Bon. Mais au moins pour l'alimentaire, on peut vraiment se passer dans les grandes surfaces. Complètement, mais complètement. On est étonné, nous sommes dans l'Ariège, on est étonné de voir que toutes les petites villes, les villages ont des marchés chaque semaine. On en a fait beaucoup là autour. On trouve de tout, de tout, de tout. On trouve des artisans qui fabriquent des pulls verts, des tissus. On trouve vraiment presque de tout, quoi. Presque de tout. Et vraiment, j'ai compris qu'on pouvait se passer d'aller dans les grandes surfaces. Et ça serait une révolution. Ça, c'est une vraie révolution. Et beaucoup plus efficace que d'aller se bagarrer dans les rues et puis d'aller montrer des pancartes. Ça mène à rien, ça. Ça n'a pas d'efficacité, ça. Aucune efficacité pour moi. Hein, voilà.
Je rappelle quand même que sur le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est que c'est un mouvement qui est apolitique et non violent. Ceux qui cassent, c'est souvent des gens qui sont infiltrés pour justement dire que ce
Oui.
sont des casseurs. Voilà.
Mais bien entendu, mais quand on va manifester pacifiquement, on sait très bien qu'il y a des casseurs qui vont
Mais oui.
intervenir. On le sait. Donc, se cacher derrière le fait qu'on est pacifique et qu'on ne casse rien, ça ne justifie pas le fait de. Tu comprends?
Oui, non mais.
Bon, moi, c'est ce que je me dis. Donc, d'accord, ils sont pacifiques. Encore que maintenant, parmi eux, ils sont énervés, ils s'énervent de plus en plus. Et parmi eux, il y a aussi maintenant des gens qui sont dans la violence. Hein. Donc on ne sait plus très bien. Mais la violence, elle est de plus en plus forte chaque samedi maintenant, on le voit. Et puis tous ces blessés, tout ça, enfin bon. Mais pour moi, ça n'a pas d'efficacité, le fait d'aller dans les rues. Ça n'a aucune efficacité. Ça ne mène à rien. Si on arrêtait dans les grandes surfaces, mais ça serait une révolution bien plus efficace, bien plus grande. Et du coup, parce que les grandes surfaces appartiennent à qui? Si on regarde bien, elles appartiennent à qui? Les grands noms appartiennent à qui? Ils appartiennent à peu près aux mêmes. C'est toujours les mêmes qui sont visés, tu sais. Alors après, comme suggestion, je disais, l'énergie. C'est sûr que l'énergie, il faudrait éviter. Alors, ne plus prendre sa voiture, on sait bien que c'est pas possible. Mais au du moins aller vers le plus possible d'économie et utiliser le moins possible sa voiture. Alors, il y a le covoiturage, il y a plein de mesures comme ça qu'on peut prendre pour sortir peu à peu de ce système. Moi, c'est ça que je pense, c'est sortir peu à peu de ce système.
Oui, mais...
Et du coup, le système va s'écrouler. Hein. Les banques vont. Mais tout le monde sera en difficulté. Toutes les grosses enseignes seront en difficulté.
Justement, je voulais en revenir sur ça parce qu'effectivement, oui, le mouvement des Gilets jaunes avait été créé par les élites et tout ça, sauf qu'en fait, je peux pas trop le dire pourquoi, parce que bon, voilà, c'est que ce mouvement, ils en ont perdu le contrôle, et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés quand ils parlent. J'ai même parlé avec des gilets jaunes qui sont très 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 au courant de tout ce qui se passe. Ce qu'on dit là actuellement pendant cette émission ou même les précédentes, ils le savent pertinemment et ils le disent sans aucun souci. Et d'ailleurs, il y a un des porte-parole gilets jaunes de Rouen, donc François Boulot, qui appelle donc à la grève illimitée, la grève générale illimitée à partir du 5 février. Mais par contre, il appelle aux gens aussi de ne plus aller dans les grandes surfaces. De ne plus les financer. Il a dit, ils veulent pas nous entendre, et ben on va les affamer. Faut savoir quand même que cette personne-là, comme il le dit, je suis issu des classes moyennes, mais il a dit, je suis quand même touché par des gens qui, comment il expliquait ça, qui parlent en fait de leurs inquiétudes et le fait que voilà, ils n'en peuvent plus et qu'il les comprend tout à fait parfaitement. Faut savoir que il me semble que c'est un avocat en plus, donc il parle de façon très bien, hein, très posée. Hein. D'ailleurs, il a pendant l'émission qui avait été faite avec Hanouna et Schiappa là, bon c'était un enfumage, hein. Sauf que lui il a quand même balancé des choses de très vraies en leur demandant où c'est que cet argent, il a dit les chiffres, hein, où c'est que ça va?
Quel argent, tu veux dire?
Alors je sais plus exactement comment il a tourné cette phrase-là parce que c'était pendant cette émission, voilà, il avait tourné. Voilà, 57% du PIB, record mondial. Où va l'argent public?
Oui.
Parce qu'il a dit, la France n'a jamais été autant productive que de nos jours, et pourtant, on est en dette. Donc il a dit, où va cet argent? Lui, il le sait très bien où c'est qu'il va cet argent, mais il a profité de cette émission-là de façon à, je pense, éveiller les gens, parce qu'il parle d'une manière sans trop donner les choses, mais que ça percute dans la tête des gens, pour que... Il se pose la question de dire, oui, effectivement, où c'est que ça va, cet argent? Parce que forcément, lui, il le sait très bien où c'est que l'argent va. On voit que c'est quelqu'un qui est assez cultivé, un avocat et tout. Voilà, c'est pas un abruti, il sait très bien où c'est que ça va. Mais il préfère en fait laisser le côté de que les gens fassent travailler un petit peu leur cerveau. Parce que c'est vrai que quand on regarde BFM TV et compagnie, on nous demande pas d'avoir un cerveau actif. Hein. On nous demande d'avoir un cerveau plat et d'absorber les informations qu'on nous dit de faire. Voilà. D'ailleurs, j'ai même vu que, petite anecdote a priori, il y a un nouveau journal qui vient de sortir, le journal des Gilets jaunes, qui vient de se créer. Donc un média alternatif. Est-ce que ça va durer ou pas, je ne sais pas. Mais bon, je trouve que c'est une bonne initiative par rapport aux médias qui nous assaillent de fausses informations. Mais par contre, tu vois ce que tu dis pour affamer ces choses-là, c'est ce qu'il a dit. Il a dit de vraiment de ne plus mettre les pieds dans les grandes surfaces. Alors, moi, souvent, ce que je dis, parce qu'il y en a certains qui me disent « Oui, mais comment je fais ? Parce qu'il y a certains trucs que je ne peux pas trouver ailleurs et puis j'ai les moyens financiers. Ben, » j'aurais dit « Limitez-vous au strict nécessaire. N'achetez plus de superflu. »
Mais surtout, l'alimentaire... Là, moi, je si quelqu'un me dit qu'il ne va pas trouver ce qu'il a besoin, je dis que ce n'est pas possible. On trouve de tout en alimentaire autour de soi. On n'a pas besoin... On n'a pas besoin d'aller manger des trucs. Est-ce qu'on a besoin de manger des fraises pour le mois de janvier?
Non, mais ça, oui.
Est-ce qu'on a besoin de manger des tomates? Je vois des tomates en décembre, janvier, des tomates tout le temps. Est-ce qu'on a besoin? Si tu regardes bien, elles viennent de tous les pays du monde. On n'a pas besoin de ça. Mm-hmm. Mais si les gens achetaient vraiment ce dont ils ont besoin, tout ce qui est alimentaire, on peut tout trouver en France autour de nous. Si on ne trouve pas autour de nous, ben on va trouver dans le département ou le département d'à côté. On trouve de tout. Mais il faut un peu... chercher. Ah, il faut se remuer. Et moi, je me dis, toi, je dis pas on va les affamer. Moi, je trouve pas que cette idée, ce soit intéressant de dire ça. Enfin bon, pourquoi pas, hein. Par contre, je me dis que si les gens élèvent leur niveau de conscience et se disent, ouais, je vais arrêter d'aller nourrir ces grandes surfaces et je vais plutôt favoriser le producteur qui est à côté, le producteur de fromage, le producteur de viande, le producteur de... Tous ces gens qui sont autour de nous et qui ont des grandes difficultés à cause des grandes surfaces, je vais pouvoir faire vivre des gens autour de moi et je vais créer des emplois. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce que les grandes surfaces, ce sont les plus grandes productrices de chômage. Quand une grande surface s'installe dans une ville... Elle va voir le maire et lui dit « Je vais créer tant d'emplois. » Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est combien elle va en faire perdre à la ville. Et ce que moi, je l'ai constaté depuis des années, à chaque fois qu'une grande surface s'est installée, eh ben, le chômage a augmenté. Mais ça, c'est clair, quoi. Donc, en faisant cette action, en favorisant les circuits courts, on va créer du travail autour de chez soi, là où on habite, et c'est ça qui est important. Et c'est ça de créer la richesse, c'est la faire autour de soi. C'est pas aller... Alors, dans les grandes surfaces, il y a aussi cette notion que les gens n'ont... Alors, ce que j'ai préconisé, c'est de dire arrêtez d'aller dans les grandes surfaces et arrêtez d'acheter les grandes marques. Les grandes marques, dont je ne me dirai pas le nom, mais toutes les grandes marques qu'on connaît, sportives, tout ça, parce que en stoppant ces achats chez ces marques-là, eh bien peut-être qu'on va favoriser un petit peu, ou du moins aider les enfants qui travaillent 12 heures par jour dans certains pays, pour que nous ayons sur le revers de la veste un nom très connu et que ça fasse plaisir aux égaux, tu comprends ? Mmh. Et là, on pourrait... En faisant une action comme ça, il y a 1000 conséquences, mais des milliers de conséquences qui vont se greffer, qui vont s'ajouter les unes aux autres. Et des choses extraordinaires. On change le monde. Ça, c'est une vraie révolution. Et on n'a pas besoin de penser qu'on va les affamer. C'est pas ça. On crée quelque chose. Et là, on construit un nouveau monde, là. Tu comprends? Parce que il y a cette notion, et c'est vrai que tout le monde tombe dans ce piège. Pour moi, c'est un piège de vouloir combattre ces gens-là. On n'a pas à les combattre. Tu vois? On n'a pas à se battre contre eux pour les faire changer. On ne pourra jamais les faire changer. C'est impossible. Et se battre contre ceux qui ont le pouvoir, on ne pourra jamais gagner. C'est pas possible de gagner. Non. Eux, ils ont l'argent, ils ont les armes, ils ont tout. On ne pourra pas gagner. Donc on se fera toujours massacrer. Et puis, ils vont imposer des lois de plus en plus restrictives. Et notre liberté va se restreindre. Et on va pleurer de plus en plus. Mais on pleurera en silence. Parce que si on pleurera en faisant du bruit, ils vont nous matraquer. Tu comprends?
Et juste.
Voilà, c'est ce que je me dis. Faisons tout ça. Faisons une révolution, mais énorme révolution en faisant ce que je propose, mais sans mort. Et puis il y a une autre suggestion que j'ai proposée, c'est de fermer définitivement sa télévision, la radio et l'achat de tous journaux. Voilà. Si on fait ça, là, parce que quel est le moyen le plus puissant qu'ont les pouvoirs? C'est les médias. Les médias ont fait élire Macron, faut voir. Il a été élu par les médias, hein, c'était clair, quoi. Toutes les méthodes de manipulation qui sont très perfectionnées, qui sont très puissantes, on n'a pas idée, eh bien, elles sont utilisées par les médias, hein. Donc, si on ferme définitivement nos télévisions et tous les médias qu'on connaît, parce que de l'information, on peut aller sur Internet, on a Internet, donc profitons-en. On a des informations qu'on peut avoir, puis on n'a pas besoin de. Voilà. Hein. On peut aller chercher ce dont on a besoin et pas plus. On n'a pas besoin de se gaver de choses dont on n'a pas besoin. Et surtout la télévision, bien sûr. La télévision, c'est un outil extraordinaire de
Oui,
manipulation.
oui, oui.
Donc il faut en sortir. Moi, ce que je me dis, c'est sortons de ce dont on peut sortir. Donc c'est facile de ne plus aller dans les grandes surfaces, c'est facile de fermer sa télévision. Et du coup, là, on amorce une révolution gigantesque, gigantesque. Et ça peut se faire en quelques jours, hein, si tout le monde se mettait à donner le mot, en quelques jours, il se passerait des choses fantastiques. Hein. Enfin,
Alors,
bon, c'est ce que je pense, hein,
oui.
voilà.
Alors.
Alors, est-ce que c'est utopique? J'ai eu plein de témoignages. Les gens ils me disent non, c'est pas utopique. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, j'ai beaucoup d'espoir de voir que ce message que j'ai envoyé est suivi déjà par des gens depuis longtemps, quoi. Voilà.
Mais moi, j'irais même encore plus loin que ça. C'est que déjà, parce que je l'ai vu tout à l'heure, une citation de Jean-Claude Van Damme qui disait, il y a du chômage, machin, nanana. Mais il dit, qu'est-ce que c'est que le problème du chômage? C'est le travail. Donc, on supprime le travail. C'est vrai que quand on reprend l'étymologie du mot travail qui veut dire tripalium, en fait, c'est de la torture. Donc,
Bien sûr.
il faudrait plus utiliser ce terme de travail
C'est
parce que
vrai, t'as
c'est
raison.
une torture. Mais
Tout à fait.
moi, j'irais dans le plus de, c'est-à-dire de ne même plus avoir l'argent, de ne plus faire appel à l'argent, parce que l'argent, c'est quoi? C'est rien. C'est quelque chose qui. C'est un bout de papier. C'est un bout de papier qui n'a que la valeur qu'on lui apporte.
Bien sûr.
Par contre, si on revenait à faire comme les premières civilisations qui se sont créées. Il y a plus de 5000 ans. Ils pensaient qu'au début, que quand les gens se sont centrés dans des villes, c'était dû à cause des guerres. Mais ils se sont aperçus qu'en fait, c'était pas à cause des guerres, c'était à cause des échanges commerciaux, mais commerciaux par le troc. C'est-à-dire que le pêcheur, il avait besoin de filets pour pêcher. Et il y avait le tisserand, il faisait les filets, tac, il les donnait au pêcheur, et le pêcheur les payait comment? En poisson. Et ça se faisait comme ça en troc, et ça se fonctionnait même parfaitement bien.
Mais
Mais
bien
le
sûr.
problème, il y a eu ces ancêtres, Road Company et tout ça, qui sont venus polluer ça et qui se sont dit, tiens, on va mettre un truc universel, l'argent, comme ça, tac, tac, tac. Et c'est à partir de ce moment-là que les guerres ont commencé avec les jalousies.
Bien
Donc,
sûr.
beaucoup de gens commencent à revenir à ce côté du troc. À créer certains, alors certains créent des monnaies locales. Bon, à la rigueur, ça peut être une solution pour revenir totalement au troc, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de largement mieux de revenir par rapport à ça, et c'est surtout de revenir à être en parfaite autonomie. Autonomie ne veut pas dire être tout seul, mais être autonome, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin en fait du reste. Et avec un ami, on est en train de mettre en place un jardin en permaculture. Donc, c'est-à-dire, bon, lui, il a déjà commencé depuis un moment, il s'est un petit peu formé, etc. Et tout ça. On a trouvé un terrain que des propriétaires cherchaient des gens contre bon soin, donc c'est-à-dire qu'on échange, lui donne une partie de la production. Pas de problème. La permaculture, ça demande pratiquement rien comme travail. Le seul travail que ça demande, c'est d'amener de la matière. C'est amener de la matière, des feuilles mortes, machin, nanin, tout ça, pour que la terre puisse se nourrir. Pas du tout la travailler, la jardiner. Alors ça, c'est le pire truc qu'on nous a mis dans la tête en disant que en faisant ce type d'agriculture, c'est comme ça que c'est le mieux. Eh ben non, parce que Claude Bourguignon, il a démontré que l'Afrique, le pays d'Afrique qu'on connaît avec le désert du Sahara, eh ben il a dit avant, c'était une région luxuriante. C'est parce qu'il y a eu une agriculture qui n'était pas du tout correcte et ça a donc créé le désert. Et le problème, c'est qu'en France, on va avoir le désert. Ça commence déjà à certains endroits. Donc, c'est pour ça que la permaculture et qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent vraiment à matraquer les gens d'aller plus loin que le bio, parce que le bio, ça fait quand même appel à certains pesticides qui sont autorisés. Et que c'est surtout qu'on utilise des machines pour travailler la terre et travailler la terre. Non. En fait, le modèle de la permaculture, de moi, ce que j'en ai compris et par rapport en observant la nature, parce que la nature, c'est la meilleure enseignante, c'est que la nature, est-ce qu'elle a besoin de l'être humain ? Non, elle n'a pas besoin de l'être humain pour vivre. Est-ce que la nature, elle a des tracteurs qui viennent nettoyer, travailler la terre et tout ça ? Non. On regarde, par exemple, cet ami m'a donné un exemple par rapport à un arbre à Bordeaux, un très vieux chêne. Et ce qu'il faisait, c'est que tous les ans, ils enlevaient les feuilles au pied du chêne. Sauf qu'au bout de quelques années, au bout d'une dizaine d'années, non, peut-être pas une dizaine d'années, 5-6 ans après, eh ben le chêne, il commençait à avoir des maladies et tout. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et ils ont donc demandé à quelqu'un en permaculture, parce que toutes les solutions qui sont faites, ça ne faisait qu'aggraver le truc. Et la personne en permaculture, il lui a dit, c'est simple, l'arbre, il a ses feuilles tombent à ses pieds. À votre avis, ces feuilles, elles servent à quoi ? À le nourrir. Donc, il a dit, laissez les feuilles à ses pieds et vous allez voir. Ils disent, oui, mais c'est pas propre, machin, nanana. Il a dit, qu'est-ce que ça peut faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dans la forêt ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient enlever les feuilles ? Les feuilles, elles restent. Ça crée un humus, ça crée le mycélium pour les champignons, tout ça. Ça crée toute une biodiversité qui va créer des bactéries et qui va nourrir l'arbre. Eh bien, ils ont fait ça, l'année d'après, l'arbre il était guéri, il fleurissait de partout et tout. Voilà. Donc, ce principe de permaculture, contrairement à ce qu'on peut penser que c'est très compliqué, non, c'est pas du tout compliqué. Là, nous, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, on a des légumes qu'on achète, on récupère les graines, ça c'est vraiment un automatisme à avoir, et ces graines-là, eh ben, on les réutilise, on les plante, c'est-à-dire on les plante comment ? La plupart du temps, elles sont jetées comme ça. Parce que la nature, elle ne va pas sortir un semoir et puis les planter tous les 5 cm. Hein. C'est, elle les balance comme ça. Et ben, figure-toi qu'il y a des gens qui le regardaient, ils se disaient, mais il n'est pas net, celui-là, il venait avec des remorques de feuilles qui balançaient comme ça. Donc certes, le jardin, on va te dire, mais, attends, mais il est dégueulasse et tout ça. Il y a des gens qui le regardaient comme ça, ils leur disent, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Alors il a un petit peu expliqué, parce que les gens le regardaient comme un extraterrestre. Et là, il a des légumes et tout ça qui commencent à pousser. Tac, 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 tout seul. Et les gens, quand ils voient les trucs, ils me disent, mais putain, mais ils sont beaux. Mais il dit, vous faites quoi ? Ben, il dit, je laisse faire la nature. Je laisse faire la nature. Et c'est vrai que quand tu regardes, c'est pas très compliqué. Et il faut savoir que ce système de permaculture, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire moi sur ma terrasse, vous pouvez le faire sur votre terrasse.
Bien sûr,
C'est tout bête, hein. Vous pouvez récupérer des feuilles, les mettre dedans. si quelqu'un tond la pelouse, vous récupérez ça, vous le mettez dessus. Si vous avez la possibilité de l'avoir de la paille ou du foin, bah pareil, on met de ça dessus. Et honnêtement, ça paraît complètement débile, mais pourtant, c'est que ça marche extrêmement bien. Et je peux te dire qu'il y a des endroits, ça pousse un peu partout. Et bien, il a dit, on va voir au printemps tout ce qui va sortir, parce qu'il y a déjà des choses qui commencent à sortir un petit peu, mais il y a même des trucs qui savaient même pas ce que c'était. Il y a des carottes qui sont en train de sortir alors que Il a dit, j'ai jamais planté de carottes. Mais ça, c'était des carottes qui étaient plantées par les propriétaires, enfin, ceux qui entretenaient le terrain avant, quoi. Donc, du coup, bah, voilà. Ça va sortir. Et puis, le truc de la permaculture aussi, c'est que si, par exemple, je sais pas, il y a 10 carottes qui poussent, bah, tu vas en prendre que 7, 8, mais tu vas en laisser pour qu'elles puissent faire des graines et que ça continue à faire ce cycle-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, moi, je pense que ça, c'est une des premières choses qu'il faudrait vraiment que ça se démocratise de plus en plus. Et ensuite, après, d'être autonome au niveau électricité.
Ah,
ça,
oui.
Ça, il faut être honnête, on ne peut pas se passer de nos jours maintenant, on ne peut plus se passer d'électricité. Ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Mais par contre...
Oui, mais il y en a qui... qui arrive à avoir une autonomie sur le plan d'électricité.
C'est ça.
Mais c'est pas facile.
Non, 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 effectivement. Alors, il y a un YouTuber, je crois que ça doit être... je regarde en même temps, je crois que ça doit être Dominique Chaillot, qui fait beaucoup de recherches justement pour arriver à l'autonomie électrique.
Ouais.
Je vais regarder si c'est bien ça, parce que je dise pas de bêtises... je cherche en même temps sur YouTube parce que honnêtement sa chaîne ça vaut le coup de voir.
Ouais.
Ah non, c'est Chaillot Barnabé, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Donc Chaillot Chaillot et Barnabé comme le prénom quoi.
Ouais.
C'est honnêtement c'est une chaîne que je recommande parce que j'apprends plein de trucs. Pour arriver à être autonome quoi, le plus possible. Lui, son but, c'est vraiment d'être totalement autonome. Là, il n'est pas encore arrivé à la totalité, mais il n'en est pas loin. Donc lui, c'est vrai que ce qu'il utilise beaucoup, c'est les panneaux solaires. Il est beaucoup sur les panneaux solaires. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont chercher sur ce qu'on appelle, nous, les énergies libres.
Ouais.
Alors... Le problème, c'est qu'il y a souvent des amalgames. Il y en a qui pensent que l'énergie libre, c'est une énergie qui vient de nulle part. Voilà.
Oui.
C'est pas ça. L'énergie libre, en fait, c'est là qu'il y a un gros problème. C'est que l'énergie électrique qui arrive chez nous, elle passe par un compteur. Ce compteur nous fait facturer le kilowattheure qu'on consomme. Donc, ce n'est pas une énergie qui est libre. Par contre, le soleil... Est-ce qu'il y a un compteur ? Non, il n'y a pas de compteur. Donc ça, c'est une énergie libre. Moi, j'appelle pas ça des énergies renouvelables. Je le dirai un petit peu pourquoi. Tu as donc le vent, les éoliennes. Donc ça, c'est une énergie qui est libre. Tu as aussi les centrales hydroélectriques qu'on peut se faire nous-mêmes. Pareil, c'est une énergie libre. Et après, il y a toutes les technologies de Tesla que pour l'instant sont encore cachées, mais qui vont venir petit peu par petit peu. Quoi.
Oui.
Pour moi... Énergie libre, c'est une énergie que tu ne payes pas, qui t'est offerte. Pour moi, c'est ça, une énergie libre. Et pourquoi je n'utilise pas ce côté d'énergie renouvelable ? Parce que renouvelable, quand on cherche le nom, ça veut dire que ça se renouvelle. Mais pour moi, le panneau solaire et tout ça, l'énergie ne se renouvelle pas. Elle se ne renouvelle pas. Pour la simple et bonne raison, en fait, c'est que on passe par un panneau solaire. Mais ce panneau solaire, qu'est-ce qu'il fait ? Exactement. Ce panneau solaire permet de transformer une énergie lumineuse en énergie électrique. Donc c'est un convertisseur. De même que les dynamos sur le vent, enfin les alternateurs, pardon, excusez-moi, les alternateurs pour le vent ou pour l'eau, eh ben ça fait quoi ? L'alternateur est un convertisseur. Il passe d'une énergie mécanique à une énergie électrique. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que les moteurs magnétiques ne peuvent pas créer du courant. Et bien, je leur dis, vous êtes des idiots. Parce que je dirais, le problème, c'est qu'on ne dit pas que les aimants produisent du courant. Non, les aimants produisent une énergie mécanique qui va être convertie par un alternateur pour créer une énergie électrique. Ça fait depuis quelques temps que je travaille sur ce projet-là.
Ah bon, d'accord.
Que je recherche. Parce que justement, comme ce Barnabé Chaillot, j'essaye d'arriver à une autonomie électrique. Voilà. Et je pense que ça, c'est ce que tout le monde veut. Parce que si on arrive à trouver la solution ultime, je peux te garantir que tu as 95% des Français qui vont dire au revoir à EDF.
Et encore... Oui, à condition qu'on ne l'interdise pas.
Et bien justement, qu'on ne l'interdise pas, moi je leur dirais, toutes les lois et tout ça qui existent, c'est parce que quoi? C'est parce qu'on leur donne une importance. Mais si on va vers l'autonomie, et ça c'est ce que me disait cet ami, il dit qu'on va vers l'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne... ce système-là, on n'en veut plus, on fait autre chose. On revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure. On va vers autre chose, donc c'est-à-dire tout ce qui est loi, machin, nanan, c'est de leur système. On ne veut plus de ça, on va aller vers autre chose. Et honnêtement, pour avoir parlé avec plusieurs gilets jaunes de plusieurs endroits d'Aquitaine, eh ben, ouais, ils ont tous cette volonté d'aller vers autre chose. Alors certains n'arrivent pas à trouver quoi, mais ils ont envie d'autre chose. Il, oui, y a vraiment ce truc-là. Et quand tu pars, tu sens que ça parle vraiment dans leur cœur. Ils veulent plus de ça. Ils veulent autre chose. Et ils ne parlent, oui, même, oui, pas, ils parlent même pas de changer Macron. Ils disent, lui, c'est, on vire Macron, le prochain, il sera pareil. Non, c'est, ouais, c'est tout le système qu'on ne veut plus. Voilà.
Oui. Mais oui, c'est, mais c'est vrai qu'au début, les Gilets jaunes avaient quelques revendications, c'est comme ça. Mais c'était des revendications légères, quoi. C'était pas très important. Bon, bien sûr, on diminuait le prix de l'essence. Bon, okay. Et puis finalement, maintenant, ça va très loin. Hein. C'est-à-dire, sans savoir le définir, en fait, ils veulent que tout change, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on est arrivé à un point de non-retour, là. On a envie que, voilà. Mais c'est, on le sent, on le sent bien, tout le monde le sent. Je voulais te dire juste une chose pour la, tu vois, quand, il y a une chose qui, je crois que c'est, comment il s'appelle, un philosophe qui parle, je me souviens plus. Enfin bon, il est connu là. Et il disait ce que je pensais aussi, mais ça fait longtemps que j'avais écrit quelque chose sur la démocratie. Et la démocratie, celle qui a marché pendant à peu près 200 ans en Grèce il y a très longtemps, pendant 200 ans quand même, ça a bien, oui, marché. Ben ce système reposait sur quelque chose qui n'était pas, il n'y avait pas de vote. Il n'y avait pas de vote. Le fait de voter comme on fait, nous, oui, on croit que c'est de la démocratie. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas de la démocratie de voter pour quelqu'un. Parce que voter pour quelqu'un, quand il y a des élections, alors on va voter, par exemple, un député. Hein, on va voter pour la Chambre des députés. Alors on va nommer quelqu'un qui est là pour, combien c'est 5 ans, là. Hein. Ça veut dire que on va donner notre pouvoir à un gars ou une femme qui, pendant 5 ans, va faire absolument ce qu'il va vouloir, peut-être tout le contraire de ce qu'il aura promis, et on n'aura aucun contrôle sur lui.
C'est ça.
Mais ça, ça s'appelle, je ne sais pas comment, mais c'est sûrement pas de la démocratie, ça.
Non, c'est une oligarchie.
Mais c'est pas de la démocratie.
Du tout.
Et toutes les élections, c'est comme ça. Même pour le maire d'un village. Pour le sénateur, alors pour le président de la République, n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un qui va faire absolument ce qu'il va vouloir. Il va faire n'importe quoi. Et pendant le temps du mandat, on pourra rien faire, avoir que les bras croisés. Et alors, on est très content, on est très fier de dire « Oui, mais alors, aux prochaines élections, il va voir, hein, il va morfler, hein, on va le virer ». Oui, mais enfin, si de 5 ans en 5 ans, on met quelqu'un qui à nouveau va faire... Non, mais c'est pas possible, ça.
Mais oui.
La démocratie en Grèce, il y avait quelqu'un qui était élu au tirage au sort, et non pas au vote. Le vote, c'est une invention qui n'est pas de la démocratie. Au tirage au sort, pendant un an. Et pendant cette année, à tout moment, il pouvait être révoqué par ceux qui l'avaient mis là. Ça, c'est de la démocratie. C'est-à-dire que ça, on dit la démocratie, le pouvoir est au peuple.
Oui,
démocratos, oui.
Ouais.
La démocratie, le pouvoir est au peuple. Mais la démocratie qu'on a en France et dans nos pays européens, la voix n'est pas au peuple. Du tout. C'est pas parce qu'on va voter tous les 5 ans que le peuple a son mot à dire. Il n'a rien à dire, le peuple. Puisqu'en définitive, en plus, on s'aperçoit qu'on nous fait voter ce qu'on veut. Par les manipulations, toutes les manipulations qu'on peut avoir maintenant qui sont très au point. Donc il n'y a plus du tout de démocratie. Tu vois ? Donc pour ça qu'il faudrait déjà changer ce système, instaurer quelque chose de différent, mais qui ne soit pas voté. Et ça, c'est une suggestion que je propose aussi, c'est d'arrêter d'aller voter.
C'est pas écrit le choix.
Voter, voilà. Parce que ça... Et si plus personne ne va voter, on sera bien obligé de changer quelque chose, là. Alors bien sûr, Macron a été élu avec 12 ou 13% à peu près. Si on calcule bien, j'avais calculé, c'est à peu près ce pourcentage hein, d'intention véritable. Mettons 15. Mais ce n'est pas de la démocratie. C'est quoi? Ce n'est pas ça. Hein. Hein. Et alors, tu parlais des énergies. Il y a un monsieur qui s'appelle Nassim Haramein.
Oui, je connais, oui.
Eh bien lui, il peut parler de l'énergie libre. Parce que lui, l'énergie libre, il sait ce que c'est, parce qu'il l'a créée, il fait marcher plein d'engins avec, mais ça, on n'en parle pas de son énergie. Elle coûte absolument rien. Et c'est ni le soleil, ni les éoliennes. C'est vraiment de l'énergie libre. Alors il faut voir il faut voir un peu les travaux qu'il a fait, les résultats qu'il a eus. Il a une fondation en Californie, il faut voir un peu le travail qu'il fait. Sa vie est en danger à chaque instant, mais il continue. Il a un moral extraordinaire, cet homme. Moi, je l'ai vu, on lui a dédicacé un livre que nous avions écrit, on lui avait dédicacé, on lui avait donné à une conférence qu'il donnait, c'était nous qui lui avons dédicacé le livre. Et c'est un type merveilleux, mais allez, allons voir ce qu'il a découvert. Lui dit, avec 3 fois rien, il dit, je l'avais vu dans cette conférence, c'était déjà il y a quelques années, hein. C'était il y a 7, 8 ans, 9 ans. Et il nous avait montré un petit objet qu'il avait créé, un petit objet qui est gros comme une pile de 1 volt 5, tu vois?
Oui.
Comme ça, avec un engin comme ça, il pouvait allumer une lampe indéfiniment. Indéfiniment. Pas indéfiniment, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais.
Oui, c'est pas un ZPM.
Non, non, c'est, je sais pas, c'est un truc de son intention.
Ou ce
Avec
qu'on.
la, il y a des, à l'intérieur, il y a des tout petits cristaux qui sont posés dans une certaine forme, certaines positions.
Oui, bah c'est. Oui.
Bon,
C'est ce qu'on voyait en fait dans la série Stargate Atlantis et même Stargate SG-1. C'est ce qu'ils appellent un ZPN ou un E2PZ. C'est un extracteur de potentiel de point zéro.
alors là, tu en sais plus que moi là-dessus. Je saurais pas dire tout ça. Moi, je l'ai vu, l'engin, je l'ai vu, je l'ai touché même. Après, je suis allé le voir, je l'ai touché. C'est un truc insignifiant. Et il dit, si on me laisse faire, j'en construis un plus gros et je peux fournir l'électricité à une ville comme New York. Indéfiniment. Gratuitement, quoi. Voilà. Et il dit, je suis en train d'en faire un. Alors, en plaisantant, il dit, je vais en faire un pour mon vaisseau spatial et je vais aller voyager dans les étoiles avec. Et quand il dit ça en plaisantant, il faut essayer de le prendre au sérieux parce que c'est un petit génie hein, quand même cet homme. Alors il s'inspire beaucoup de Tesla,
De
bien sûr.
Tesla, c'est ce que j'allais dire. Parce que justement, ce type de technologie, c'était connu par Tesla et la plupart des brevets qu'on connaît, il y en a une bonne partie qui ne sont pas connus parce qu'ils sont cachés, ils sont masqués.
Oui.
Parce que lui, la transmission du courant, il pouvait envoyer, c'est-à-dire on pouvait se trouver en plein milieu du désert et on avait du 230 volts, comme si on était chez ici, hein. Pareil, hein. Mais en
Eh bien
plein milieu du désert.
oui, exactement.
Parce qu'il avait réussi à trouver cette technologie
Oui.
de comment faire cette transmission du courant. Et d'ailleurs, j'ai vu sur un article de Futura Science de transformer les ondes électromagnétiques du Wi-Fi en électricité. Et quand j'ai vu ça, j'ai de suite pensé justement à Tesla. Parce qu'il faut savoir que Tesla, il avait trouvé ça. Hein. D'ailleurs, on le voit en photo avec une ampoule électrique dans les mains qui est allumée. Pourtant, il n'était pas électrocuté, hein, mais elle était allumée. C'est pas un
Ah ouais.
photomontage, c'est une photo historique. Hein.
Ah ouais.
Et le problème, c'est que
Ah ouais.
quand il avait proposé cette technologie, donc tous les lobbies électriques et tout ça, mais ils lui ont fait, mais monsieur Tesla, où c'est que nous allons poser notre compteur? Voilà ce qu'ils lui ont dit. Et lui, ce qu'il a rétorqué, il a dit, mais je m'en fous, il dit, je ne veux pas de compteur, il dit, je veux que l'électricité soit accessible à n'importe qui, gratuitement, et n'importe où il se trouve sur Terre. Voilà.
Et ouais,
Donc
bien
on
sûr.
sait pourquoi on n'a pas accès à ces découvertes. Sachant qu'il avait quand même créé la première voiture électrique en parfaite autonomie, sans batterie, sans rien, et qui pouvait à son époque quand même rouler jusqu'à 130. Hein.
Ah oui,
Voilà.
tu vois, c'est extraordinaire.
Oui.
Et oui.
Mais ça, on n'en parle pas trop, ça reste. Ça, ils ont réussi à faire étouffer le truc comme si c'était une légende urbaine, mais pourtant il y a des témoignages qui ont bien vu que. Sa voiture d'époque, quand elle roulait, hein, ces voitures d'époque qui étaient moteurs, je peux vous dire que le bruit, ça faisait vraiment du bruit. la sienne ne faisait pas du tout de bruit. Et les gens, ils étaient très étonnés que sa voiture ne faisait pas de bruit.
Et oui, oui, voilà. Mais voilà, moi, quand je parle d'énergie libre, je pense à ce genre de choses, hein, bien sûr. Mais alors que j'y connais rien, hein, mais je sais que ça existe. Moi, j'ai vu Nassim Aramaï, je le connaissais depuis longtemps. J'avais déjà vu ses vidéos, mais quand je l'ai vu en réalité, j'ai passé une après-midi avec lui, c'est extraordinaire, quoi. Et on sent bien que il a derrière lui toutes ses connaissances. Hein. Et si on le laissait faire, le monde changerait complètement. Mais bien sûr que le pétrole, tout ça, tous ces lobbies tiennent tout ça à bout de bras et ils vont empêcher cette sorte d'énergie aboutisse, quoi. Hein. Mais elle existe. Alors, voilà. Moi, parce que je me dis, c'est ça. On ne va pas combattre ces gens. On ne va pas les combattre. Il faut les combattre de façon. Mais pas les combattre, non, je ne veux pas dire les combattre. Il faut faire en sorte que leur pouvoir leur tombe sans qu'on aille leur piquer ce pouvoir. Que leur pouvoir leur tombe. Et le pouvoir, c'est nous qui allons le prendre. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et si on prend notre pouvoir chacun individuellement, à ce moment-là, le pouvoir en haut ne tient plus. Je ne sais pas si tu as lu un article que j'ai écrit ou que j'avais intitulé comment déjà ? Je l'avais intitulé « Qui gouverne vraiment ?»
Oui. Et, si, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres émissions.
Oui, voilà. Et bien, quand on voit cet article, il y a le monde est fait sous une forme pyramidale. 90% de la population, ce sont les gens comme toi, comme moi, comme les gilets jaunes et comme... Il n'y a pas que les gilets jaunes. On peut mettre dedans beaucoup de gens, hein, même de ceux qui se disent un peu riches, mais qui ne le sont pas vraiment en réalité. Représentent 90% de la population. 90%. Si chacun reprend son pouvoir, tous ceux qui sont au-dessus, ils ne vont plus tenir, hein, ils ne tiennent de rien. Les gens qui ont le pouvoir, les gouvernements, les Rothschild, les... Le pouvoir qu'ils ont, c'est ce pouvoir qu'on leur a donné.
C'est ça.
Mais c'est ça ce qu'il faut prendre, conscience. Et bien, si on reprend notre pouvoir, on se le reprend en n'allant plus voter, par exemple. Voilà, on arrête. Voilà, on dit j'arrête avec ce système. Bon, c'est bon, j'arrête. Si on prend des mesures comme ça. Toutes celles que j'ai dites, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Des choses toutes simples. Toutes simples. Mais c'est reprendre son pouvoir. Ça passe par là. Et à ce moment-là, le pouvoir qu'ont les puissants tombe de lui-même en quelques jours. Mais alors, ça serait vraiment la plus grande révolution que l'humanité ait connue.
Mmh. Oui.
Mais si on se mettait tous d'accord pour prendre ces mesures-là, ça serait extraordinaire. Mmh. Ça, c'est tout simple, quelquefois. Pour moi, ça me semble assez simple de faire comme ça. Mmh. Prendre ces mesures. Parce que, et c'est ça le problème, c'est comme tu disais, l'autonomie, bien entendu, mais c'est reprendre son pouvoir. Et dépendre de moins en moins et le moins possible du système. Alors le système, bien sûr, est-ce qu'on aura toujours besoin d'avoir un compte en banque ? Peut-être. Mais pas sûr, mais peut-être, je ne sais pas. Voyons chacun d'entre nous, de notre côté, si on peut se passer d'un compte en banque. Si on peut se passer de la carte vitale. Si on peut se passer de médicaments. Si on peut se passer d'aller voir le médecin. Moi, ce que je vois, nous, les médecins, on ne va jamais voir le médecin. Jamais, jamais, jamais. Et la vie se passe impeccable. Hein. J'avais vu une étude il y a 3-4 ans, mais elle a vite été étouffée. Il y avait une étude qui avait été faite dans une région de France, je ne sais plus où, qui avait vu que là où, dans cette région où il y avait de moins en moins de médecins, comme par hasard, il y avait de moins en moins de malades.
Oui.
C'est intéressant, hein, quand même, cette idée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille plus du tout aller voir un médecin. Bien entendu, qu'on va aller de temps en temps voir un médecin quand c'est urgent, quand c'est vraiment nécessaire.
C'est ça.
Quand c'est vraiment nécessaire, pourquoi pas, hein. Il y a une opération qui s'impose, et bien on va la faire. Mais arrêtons d'aller à tout bout de champ chez le médecin. L'autre jour, je suis allé voir une médecin qui est ici. Je voulais un papier. Mais il y avait une salle d'attente remplie et j'ai entendu des gens parler. Mais ils venaient régulièrement, ils venaient régulièrement pour que leur remplir de médicaments leur truc là, et ils se gavent de médicaments, genre ils se prennent des médicaments régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et la médecin, quand elle m'a vu, me connaissait pas. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Ben, je dis, je prends pas de médicaments. Elle m'a regardé, elle était très étonnée. À l'âge que j'ai, je prends pas de médicaments. J'ai écouté, moi, ça fait très très longtemps. Je crois que j'ai jamais pris de médicaments vraiment régulièrement. Non, ça m'est jamais arrivé. Il y a 30 ans, bon, des médicaments, j'en ai jamais beaucoup pris, non. Elle était très étonnée parce que à mon âge, normalement, on doit prendre des médicaments pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Tout ça, c'est parfaitement inutile. Et ça fait que nourrir ces grandes entreprises, hein, dont les patrons sont à peu près toujours les mêmes, pétroliers, laboratoires, pharmaceutiques, grandes surfaces, ils sont tous, ils se recroisent, ils sont toujours un peu les mêmes. Hein.
Oui.
Et oui. Donc voilà, il y a des mesures à prendre comme ça, mais il y a une prise de conscience de chaque individu à prendre et se réfléchir, à dire voilà, qu'est-ce que je fais maintenant pour que ce monde change? Mais pour moi, ce n'est pas d'aller dans les rues et puis brandir des pancartes. D'accord. Ceci dit, j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui manifestent tous les samedis. Et si j'étais riche, je leur apporterais une aide quelconque, je ne sais pas quoi faire, sauf d'apporter un kilo de kiwi ou un truc comme ça. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. Ils sont très sincères, la plupart. Ce sont des gens qui ont l'impression de faire quelque chose d'utile pour eux. Et, bah, ils ne font que se blesser, perdre leur temps et gâcher leur samedi, geler de froid. Mais bon, voilà. N'empêche qu'ils se créent quand même une solidarité. Hein,
oui.
Il y a un courant qui se crée. Bon, mais maintenant, il y a aussi beaucoup de divisions qui naissent avec les élections qui arrivent.
Oui, aussi.
Bon. Alors, nous verrons un peu où ça va aller, mais c'est vrai que ces gens-là, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux.
Et justement, je voulais un petit peu rebondir sur le côté qu'on a quand même, que nous, en tant que peuple, on a un pouvoir qu'on ne soupçonne pas. C'est par exemple, dans les grandes surfaces, tout ça, on remarque qu'il y a de plus en plus de produits qui sont sans conservateurs, sans produits soumis à controverse, machin, nanana, sans conservateurs, enfin, on voit beaucoup de choses comme ça. Et souvent, je leur dis aux gens, je dirais, rappelez-vous, 5-6 ans en arrière, est-ce que vous aviez ce genre de choses? Ben, y en a qui vont dire non. Non, effectivement, il n'y en avait pas. Et pourquoi il y a ce genre de choses qui arrivent? Et ben, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris conscience des poisons qu'on nous mettait dans ces aliments,
ouais,
et qu'ils ont compris qu'ils ne voulaient plus de ça. Et ben, le fait d'avoir eu ce changement de pensée, de dire... stop, on ne veut plus. Et ben les autres, ils ont été contraints de le faire, ce qui fait qu'en fait on a beaucoup plus de force ensemble que eux. Je leur rappelle quand même qu'on est 99% et eux ils ne représentent que 1%.
Oui oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est voilà. Vrai. C'est vrai.
Et ça rappelle un petit peu ce que tu disais, le côté de faire la méditation, qu'il y avait eu des expériences qui avaient fait stopper la guerre pendant quelques jours et tout. Et ben ce pouvoir, si on est tous sur le même genre de choses, eh ben, au bout d'un moment, ça finira par arriver et c'est en train de se faire avec les pesticides parce qu'ils se retrouvent de plus en plus dans la merde, parce qu'en fait, les gens sont de plus en plus à ne plus en vouloir. C'est oui, pas que le glyphosate, c'est tous les pesticides, c'est stop.
Ouais.
Et justement, moi, je vous le dis, enfin, les personnes qui nous écoutent soit en direct ou alors en différé avec le podcast, vraiment, intéressez-vous à la permaculture, parce que la permaculture, ça ne fait appel à rien du tout.
Oui, c'est vrai.
Fait appel à la nature.
Oui.
Ça paraît idiot, mais c'est clair que Claude Bourguignon, il pourrait mieux en parler que moi, parce que lui, c'est un scientifique sur ça, et qui lance des alertes qu'on est en train de tuer la Terre, qu'avec les pesticides et tout ça, il a dit que c'est une véritable hérésie. Et pourtant, quand il a vu qu'on était en train de tuer la Terre, il travaillait encore à l'époque à l'INRA, qu'il avait fait des alertes et qu'on lui a dit gentiment de se taire.
Ah. Ouais.
Voilà, et que lui, bah, en gros, il a fait un gros doigt d'honneur, et il s'est cassé, et il a monté sa société, et qui maintenant il alerte de tout ça, quoi, parce que là, c'est de plus en plus grave ce qui se passe au niveau de la Terre, parce que comme il disait, la Terre, c'est pas juste de la Terre, c'est tous les micro-organismes qui sont dedans qui font la nourriture des plantes. Il a dit, les plantes qu'on a, ce sont des plantes malades, qu'on récolte et donc forcément bah, ça fait une nourriture qui n'est pas bonne parce que les plantes sont malades. Il a dit qu'on met de l'engrais, il a dit on ne donne que 3 éléments sur 26, je crois. 3 éléments sur 26. C'est une hérésie. Et de ce fait-là, bah, la plante est malade. Et puis, bah, hop, voilà, on nous fait manger ça. La permaculture, elle, elle n'a pas besoin d'azote, de machin, d'engrais, machin et compagnie. Tout se fait par des micro-organismes. Et les micro-organismes, en travaillant dans la terre, en se nourrissant, en faisant ce qu'elles ont à faire, vont sécréter des choses que les plantes vont se nourrir. Et là, elles auront tout ce qu'elles leur, tous les aliments qu'ils leur font. Et pouf. Et c'est pour ça que les fruits, enfin les fruits, les, on va dire, les, oui, les fruits, oui aussi, et les légumes en permaculture, et ben là, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, par exemple, c'était l'année dernière, j'ai trouvé des pommiers complètement abandonnés. Et ils faisaient toujours leurs pommes et tout. Et ben, avec ma fille, on s'est mangé des pommes. On s'est mangé des bonnes pommes, quoi.
Oui, bien sûr.
Alors, certes, il y avait des vers. Ah, oui, il y a des vers, mais oui, bah, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave, on prend le couteau, on coupe, on enlève le ver, on le met par terre, et puis voilà.
Oui, bien sûr, puis, bien sûr. Mais oui.
Et comme mon père, il me disait à l'époque, il a dit bah, c'est pas grave, ça fait un morceau de viande. Bon, pour les végans, c'est peut-être pas trop le truc à dire, mais voilà, je veux dire, voilà, qu'il y ait des vers dans des pommes, bah oui, ça arrive, c'est pas grave.
Oui, bien sûr. Bon, c'est toujours la garantie que la pomme, elle n'a pas été traitée.
Ah, ça, c'est clair. S'il y a des vers, c'est que la pomme, elle n'a pas eu du tout de traitement.
Eh, bien sûr. Une chose.
Et là, honnêtement, j'ai testé entre une pomme que j'ai cueillie sur ces arbres et une pomme que j'ai prise en supermarché. Déjà, tu regardes, il y en a une, elle est, tu vas dire, oh, elle est moins belle et tout ça. C'est celle qui a poussé sur l'arbre. L'autre, c'est sûr, elle est bien formée, machin, elle brille et tout. Mais quand tu la manges, tu manges, t'as l'impression de manger de l'eau, de la farine. En fait, ça n'a pas de goût. Par contre, l'eau, tu la prends, elle croque, elle est dure. Et par contre, elle a du jus et elle est hyper bonne, quoi. Hyper bonne. Et je peux te dire que là, juste derrière moi, je les ai cueillies, c'était quand en novembre. Ben, elles sont toujours là. Et bon, elles commencent un peu à flétrir, mais voilà, elles sont toujours en état... Bon, il y en a quelques zones qui ont pourri, mais ça c'est normal. C'est... Et encore, je n'ai pas encore mon jardin, mais celles qui auront pourri pour plus tard, ben, je les mettrai dedans. Je les mettrai dans ce bac de permaculture. Parce qu'une pomme qui pourrit, c'est peut-être pas esthétique tout ça, mais si vous le mettez dans vos plantations, eh ben, ça va nourrir la terre parce qu'il y a une dégradation, donc un développement de bactéries qui va permettre de nourrir la terre. Parce que ce qu'on pense, on croit que les plantes ont besoin... d'azote, de machin nanin. Non, elles ont besoin des bactéries. Les bactéries, quand elles vont manger la nourriture, qu'elles vont le dégrader, elles vont créer de l'azote, mais un azote naturel. Pas un azote créé chimiquement. Et le truc, c'est que dans les engrais industriels, ils mettent de l'aluminium. Je le tiens à le dire, ils mettent de l'aluminium. Voilà. Qu'est-ce que vient faire de l'aluminium pour nourrir une plante, sachant quand même que c'est un neurotoxique.
Et oui, peut-être que c'est la raison. On ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop pourquoi. Ouais,
peut-être une volonté de stériliser la terre, mais alors dans quel but? C'est un peu.
Ouais. Ben oui. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est compliqué ça. Ça me rappelle un producteur de fruits et légumes de Béziers sur le marché où j'allais souvent. Il avait des pommes, ces pommes, il les qualifiait de pas de bio, mais je ne sais plus quoi. Alors, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, il y a quelques temps, d'ailleurs, quelques temps auparavant, il n'y avait pas si longtemps, il s'était aperçu que les pommes qu'il vendait, il y avait 20 produits chimiques dans les pommes.
C'est ça.
20 produits différents. Et quand il a appris ça, il ne le savait pas, il a été horrifié, il a arrêté d'acheter ses pommes, et puis il a trouvé des pommes. D'autres pommes qui étaient moins jolies, qui n'étaient pas vraiment bio, mais bon, presque bio. Hein. Mais disons que là, il était sûr de vendre des pommes de bonne qualité. Il m'avait raconté ça. Donc, tu vois, les marchands sur les marchés, quelquefois, ne sont pas au courant de la provenance de leurs produits et ce que ces produits contiennent. Donc c'est vrai, et nous aussi on a un grand parc ici, beaucoup de fruits, et c'est vrai que là c'est plus bio, enfin c'est jamais très bio puisque il y a des chemtrails qui sont dans le ciel et qui nous bombardent de produits, on ne sait pas trop, et l'aluminium d'ailleurs qui nous font tomber sur la tête. Donc, c'est pas complètement bio, mais enfin, disons que c'est pas mal quand même.
Bah, moi je dirais qu'est-ce que c'est que le bio en fait, parce que c'est vrai qu'on parle de bio de nos jours, mais moi j'en parle par rapport à quand j'étais gamin, hein, donc ça remonte à déjà plusieurs années. J'ai jamais entendu parler de bio. Et en fait, ce qu'on appelle bio, quand j'en parlais à ma grand-mère, quand elle était encore de ce monde, bah eux, c'était l'agriculture normale, quoi. C'était la pomme, elle poussait, enfin voilà, je veux dire, ils mettaient pas de pesticides, de trucs de ci, de là, quoi.
Non, bien sûr,
Alors
bien sûr.
certes, ils travaillaient la terre, machin nanin, donc c'est pas une bonne agriculture, on est bien d'accord, mais c'est exactement ce que fait le bio. Voilà, c'est pour ça que le côté de la permaculture, c'est qu'on va au-delà du bio. On va au-delà de travailler la terre, etc., etc. pardon. Et c'est vrai qu'il y en a quand il y a des gens qui étaient bio, parce que je sais qu'il y a des gens qui partagent, enfin qui échangent sur la page de Radio Terrazen,
Ouais.
qui étaient des agriculteurs bio, bah, qui sont passés en permaculture parce qu'ils se sont rendus compte que la permaculture, elle est bien plus rentable et elle demande moins de travail à travailler la terre, etc. Parce que voilà, c'est un mode de fonctionnement qui est totalement naturel et qui ne demande pas de pesticides. Parce que on dit bio, mais il faut savoir que dans le bio, il y a quand même des pesticides.
Oui, non
Ça, on
mais
l'oublie pas. Hein.
il y en
Voilà.
a qui sont autorisés, donc voilà.
Voilà.
Mais que, alors, dans les grandes surfaces, on voit de plus en plus de rayons bio, comme si c'était un
Oui.
magasin bio qui est là. Alors, moi, de ces produits, franchement, je m'en méfie. Hein, voilà. Donc, moi, dans les grandes surfaces, de toute façon, je n'achète rien à manger. Quoi, que ce soit bio ou pas bio, j'achète rien. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'appellation bio, on a l'impression que c'est un peu mieux que ce qui n'est pas bio, quoi.
Oui.
Mais si on savait vraiment ce qui, d'où ça vient, tout ça, peut-être qu'on aurait de quoi se méfier un peu, quoi. Je sais pas. Hein. Moi, par contre, moi, ce que je privilégie, ce sont les gens qui sont. Alors, est-ce qu'ils sont bio ou pas vraiment bio? Mais pour moi, je donne la priorité à ceux qui sont des producteurs à quelques kilomètres de chez moi. Et là, je leur fais confiance à ceux-là. Alors, il y en a qui sont bio, il y en a qui le disent, mais je ne suis pas tout à fait bio, je ne suis pas bio, bon. Mais je préfère faire travailler celui-là qu'un soi-disant bio qui se trouverait à 10 000 km de chez nous, quoi.
Oui.
Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus écologique, voilà, d'avoir cette attitude-là, quoi. Tu vois?
D'ailleurs, je crois que les seuls, enfin, je me trompe peut-être, mais de ma connaissance, ceux qui favorisent vraiment l'agriculture locale, c'est les magasins Biocoop, qui essayent vraiment de se fournir avec les gens qui sont autour. Voilà, de pas faire venir un bio de 500 km, quoi.
Oui, non, mais bon, je ne vais pas faire de la publicité non plus pour Biocoop ou les autres. Bon,
Non, mais voilà.
ils font de leur mieux, c'est bien. On a des magasins bio en France, on a des magasins bio dans tous les coins de ville, on en a partout. On vient d'Espagne, ce n'est pas le cas, il n'y en a pas du tout en Espagne, pratiquement pas. Donc en France, on a cette chance-là. Mais c'est pareil, moi j'aime bien voir la provenance des produits et quand je vois que ce produit vient de pardon, de je sais pas quel pays est loin lointain, eh ben voilà, je le prends pas. Tu vois, voilà, je préfère pas le prendre quoi. Et puis m'en passer, voilà, parce que j'ai pas envie de voilà, c'est ça. Je préfère faire travailler les gens qui sont autour de. Moi, je trouve que c'est la priorité. Hein. Chez nous, dans la ville où je suis, il y a un marché tous les vendredis, et dans un coin du marché, il y a des bio. Voilà. Il y a des légumes, des fruits, on trouve tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Il y a un poissonnier, il y a un marchand de viande, on trouve tout ce qu'on veut. Il y a un boulanger, voilà. Et là, ce sont des locaux. Alors, des locaux bio. On peut pas espérer mieux, tu vois. Et je suis persuadé. Dans d'autres villes, je l'ai vu aussi, hein, autour de chez nous. Et je suis persuadé que partout, on peut trouver comme ça, dans les marchés. Mais ben, allons dans les marchés. En France, on a cette chance extraordinaire d'avoir dans chaque village un marché par semaine. Mais allons dans les marchés et puis questionnons les producteurs. c'est à nous de les motiver pour aller vers le bio, pour faire telle autre chose, etc. Mais c'est en allant vers eux, en les faisant travailler, en leur donnant notre argent à eux et non plus aux grandes surfaces, qu'on va commencer à vivre et pratiquer la solidarité dans notre village, dans notre ville, dans notre région. Je pense que c'est là que ça va commencer, tu vois. Moi, je trouve que là, si on s'y mettait vraiment tous, ça, c'est une véritable révolution. Et c'est pas un retour en arrière, non, c'est vivre, enfin, quoi, vivre normal, quoi. Ouais. Voilà. Si c'est utopique de penser ça, je veux bien. Et moi, c'est comme ça qu'on le pratique, hein, voilà. Nous, c'est ce qu'on fait. On le fait le mieux qu'on peut. Et ben voilà, moi, je me sens bien comme ça, voilà. Et je pense que je m'aperçois quand même de plus en plus de gens le font. De plus en plus de gens sont conscients de ça. Il y a donc une prise de conscience vraiment à ressentir aux gens. C'est une prise de conscience, voilà, de la situation exacte, de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire. Voilà. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que chaque individu a une action à faire, a quelque chose à faire. On a tous quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer ce système, vraiment le changer complètement et passer à autre chose. Il faut bien comprendre que cette année et l'année prochaine, sont des années clés, mais ce sont des années clés, c'est pas des paroles à la légère que je dis, c'est pour moi, c'est ce que j'ai compris, ce sont des années clés sur le plan de l'histoire de la Terre. Si on remonte des milliers d'années en arrière, On n'a jamais connu ce qui se passe en ce moment sur notre terre.
Ben justement, le célèbre médium brésilien Chico Xavier a annoncé que, alors je crois que ça doit être juillet 2019 ou été 2019, je ne sais plus exactement, qu'il allait avoir un basculement important.
Oui, en juillet, ouais, en juillet.
Oui, c'est, bon. C'est juillet, voilà, je ne savais plus.
Mais tu sais, en astrologie... Il n'est pas nécessaire d'être très grand astrologue pour comprendre ces choses-là. On les voit. Hein. C'est inscrit. Bon, moi, ce sont des choses que j'avais vues il y a 20 ans. Je travaillais avec d'autres astrologues. Et puis, on avait situé justement les dates que nous vivons aujourd'hui, 2019, 2020, 2021. Mais 2020 surtout, hein, 2020. Et là, c'est vraiment un passage très fort, très, très fort. Mais bon, ce qui se passe maintenant, c'est quand même quelque chose au niveau de l'histoire de la Terre, quoi. La Terre n'a jamais eu sur son dos autant d'habitants que maintenant, jamais.
Tout à fait.
Et pour répondre à cette question, pourquoi on est si nombreux, je ne vois jamais cette réponse apparaître quelque part. Personne ne le dit, ça. Pour moi, enfin, bon, personne ne le dit. Il y en a qui ont des idées là-dessus, mais je ne vois jamais apparaître la réponse qui me conviendrait le mieux. Pourquoi il y a tant de gens qui viennent? Pourquoi il y a tant de gens qui viennent sur Terre en ce moment, quoi? Eh ben, moi, ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi, c'est ce que je pense, c'est que les âmes qui ont décidé de s'incarner à notre époque, pourquoi elles sont si nombreuses, ces âmes? Mais parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à vivre de très particulier au niveau de l'âme. Et c'est pour ça qu'on est si nombreux. C'est pour ça qu'on est si nombreux. Et on n'est pas nécessaire de vivre 50 ans sur Terre. Quelquefois, il y en a qui arrivent et qui meurent, qui s'en vont aussitôt, qui meurent pas, ils s'en vont aussitôt. C'est juste pour ressentir l'énergie qu'il y a en ce moment. Il y a une énergie très, très particulière. En ce moment, mais depuis 2012, bon, maintenant, c'est de plus en plus fort, et l'année prochaine, encore plus. Donc, il va se passer des choses, bien sûr. Quand il y a une énergie si puissante, ça se ressent au niveau de la matière, bien sûr. Et la matière, ben, c'est ce qu'on voit avec nos yeux, c'est ce qu'on vit ici, dans cette incarnation. Donc, il va se passer des choses du domaine de notre vie matérielle et surtout de notre vie spirituelle. Parce que ça a un retentissement immédiat sur le côté spirituel. Voilà, donc il y a un travail à faire là-dessus, à ce niveau-là, bien sûr. Voilà, Cédric, on pourrait en dire beaucoup plus là-dessus.
Oui,
hein,
oui. Bah là, on a un petit peu dépassé le timing.
On a dépassé, je crois.
Voilà.
Oui.
Mais bon, étant donné que bah, j'ai la forme de suite, c'est qu'au mois de février, il n'y aura pas d'émission. Donc la prochaine sera au mois de mars. Donc
oui,
c'est pas très grave qu'on a un petit peu dépassé. Juste pour revenir par rapport à ce qu'on disait au tout début, la loi anti-casseurs, bah, en fait, il y a eu un feu vert de l'Assemblée à des interdictions administratives de manifester. Voilà. Donc est-ce qu'elle est passée en intégralité, je ne sais pas, mais a priori.
Ah ben, alors... Ah oui, d'accord,
Voilà.
j'ai pas suivi. Donc, interdiction administrative de manifester.
C'est ça.
Alors, déjà, notre Constitution commence à être complètement bafouée, parce que dans la Constitution, le droit de manifester, c'est un droit très important,
Tout à fait.
hein.
Bah, je crois que François Asselineau avait dit qu'elle a été violée 14 fois par Macron, quand même.
Oui, ça c'est...
Donc, à se
Ouais.
demander. À quoi elle sert? Honnêtement, c'est vrai que elle sert pas à grand-chose. Et c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure avec le porte-parole Gilet jaune, François Bouleau, justement, c'était pour, avec cette grève-là, c'était pour faire appel au respect de l'article 2 de notre Constitution, qui est donc le principe de la République, hein. C'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ça, c'est clair qu'on n'est pas du tout dedans. Là, c'est.
Ben,
On n'est pas du tout dedans.
bien sûr que non, on n'est pas dedans. Bien sûr que non. Comme je le disais tout à l'heure, le simple fait de voter pour quelqu'un et de le mettre comme ça pendant 5 ans et puis le perdre de vue complètement, y a pas de... C'est sûr qu'on n'y est pas du tout dans cet article.
Non, du tout. Donc,
Non.
quand on voit que eux-mêmes ne respectent pas les constitutions qu'ils ont mises en place, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure pourquoi nous, on devrait continuer à suivre ces lois. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens prennent une direction, de dire là, c'est bon, on va face à un mur, hop, on change de direction et on va ailleurs.
Bien sûr, et bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je pensais, je te l'avais dit, c'est que là, tu me dis maintenant qu'il y a cette loi ou cette disposition qui va interdire de manifester. Pour moi, je sentais venir cette loi martiale. Est-ce qu'elle va être appliquée? Je ne sais pas. Il faudrait que peut-être des événements soient encore un peu plus graves, qu'il y ait de plus en plus de blessés, pour justifier la loi martiale. Bon, pour l'instant, c'est pas justifié encore, mais on peut y arriver. Et si la loi martiale s'instaure, alors là, c'est un régime policier, et on n'est plus du tout en démocratie. Même cette démocratie illusoire qu'on connaît maintenant n'aura même plus lieu. Donc, ça sera différent, quoi. Mais moi, je pense que c'est ça, hein. On a laissé faire les gilets jaunes pour arriver à ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a toujours une intention dans quelque chose qu'on laisse comme ça moisir. C'est comme les casseurs. Les casseurs, on ne les a pas empêchés de venir. On les a au contraire favorisés. Justement pour qu'il y ait cette dégradation dans la manifestation et la violence, quoi. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Pour arriver à cette finalité, la loi martiale. Pourquoi il y a eu des attentats il y a 2, 3 ans? Pour instaurer l'état d'urgence. Et l'état d'urgence arrivait à la loi martiale. Et peu à peu, on élimine la démocratie. Ensuite, on l'installe dans la Constitution, ça devient une dictature autorisée par le peuple. Et voilà. Et oui.
Pardon. Bon, bah donc on va conclure cette émission du mois de janvier, qui, je le rappelle encore une fois, il n'y aura pas d'émission au mois de février, hein, donc ça reprendra au mois de mars. Et donc, je le redis comme en début d'émission, ce sera tous les derniers jeudis de chaque mois. Donc au mois de mars, ce sera donc le dernier jeudi du mois de mars. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comme à chaque fois de nos émissions, un petit mot de la fin pour conclure celle-ci?
Bon, ben, je vais un peu répéter ce que j'ai dit, c'est que qu'est-ce qui est important pour cette année? Parce que cette année, il va y avoir des choses un peu difficiles, et peut-être difficiles pour des gens qui sont en grande difficulté, encore plus difficiles pour eux. Et je pense aux blessés qu'il y a eu, qui sont dans des conditions dramatiques, quoi. Moi, je vous dis de redire à tous ces gens de ne pas perdre d'espoir, voilà. De pas perdre espoir, de prendre conscience, de prendre sur eux-mêmes pour aller chercher l'information, la vraie information. Et comme je le disais, de prendre des mesures personnelles pour faire des actions à notre mesure, chacun de notre côté. Ne plus attendre, ne pas attendre, parce qu'il ne viendra jamais un sauveur quelconque, hein, qui s'appelle X ou Y, qu'il soit politique, mystique, je ne sais pas quoi, et il va jamais intervenir. Il va jamais y avoir un sauveur. Ne comptez sur personne. Ne comptons sur personne pour nous sortir de nos difficultés. Il n'existe pas, ce sauveur. Ça n'existe pas. Ça. Et l'époque est venue justement pour bien prendre conscience de ça, que maintenant, le seul sauveur que chacun ait, c'est soi-même. Voilà, ça c'est ce que je voudrais dire. Donc il faut que chacun prenne sur soi pour aller chercher les solutions quand on a un problème. Demander, aller chercher les solutions. Et des solutions, il y en a plein, plein, plein. Il y a beaucoup de solutions sur tous les problèmes. Voilà. Et donc garder l'espoir.
Ok, eh bien merci pour ce mot de la fin de cette émission du mois de janvier 2019. Bon bah je te dis donc à la prochaine émission du mois de mars, hein, et bah en attendant, à très bientôt, et puis on pourra s'échanger quelques petits trucs pour savoir le sujet de la prochaine émission, hein, pourquoi pas un petit peu faire les suites, parce que c'est vrai que ça va reporter d'ici un mois et demi, hein, même plus que ça, hein, 2 mois presque. Donc il y aura peut-être des changements qui se seront faits entre-temps et qu'on pourra un petit peu débattre
Il y aura
sur.
de grands changements qui se seront faits d'ici la fin mars.
Oui, je
Oui.
pense aussi. Ouais. Je pense aussi.
Ouais.
Eh bien, je te dis une très bonne soirée et puis donc
Merci.
à la prochaine émission du mois de mars.
À très bientôt, Cédric. Merci bien. Merci à tous.
Voilà, donc cette émission du mois de janvier touche à sa fin. Donc elle a duré un petit peu plus longtemps parce que, comme je vous le redis encore, il n'y aura pas d'émission au mois de février. Donc ce sera donc au mois de mars. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle émission de Spiritualité en question.